Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on remonte à la capitale. Vous connaissez mon amour pour les hommes et les femmes qui pensent droit. Non pas droit dans le sens d'une rectitude figée et austère, mais droit dans l'idée de vivre en conformité avec leurs idées de liberté, égalité, fraternité. Et oui, ces valeurs profondément humaines qui, dans notre belle patrie des droits de l'homme, ont plutôt tendance à être remplacées par les putrides relents pétainistes de travail, famille, patrie. J'aime les hommes et les femmes qui ne vont pas où souffle le vent, à l'image de toutes ces girouettes politiques qui polluent notre monde. Girouettes politiques. Pléonasme, me direz-vous.
Bonjour Alexandre.
Salut Philippe.
Salut, ça va bien?
Ça va?
Bon, et ben on est parti.
On est parti.
Ben alors, tout d'abord, un grand merci pour avoir répondu à l'invitation de Radio Larzac. Ça fait un petit moment que l'on se
Ah
court,
non, ouais.
qu'on se court après. Alors, tu n'es pas un inconnu des auditeurs, hein, tout du moins pour ceux qui écoutent Conflit de Canards. C'est une autre émission que j'anime avec mon compère Gilles, car j'ai souvent relayé les prises de position et les actions courageuses que tu mènes à travers le syndicat Vigie, dont tu es toujours, aux dernières nouvelles, le secrétaire général. Alors,
exactement.
juste une précision hein, pour les auditeurs. Lors de nos échanges épistolaires, hein, le tutoiement est venu assez naturellement, donc je continue si tu n'y vois pas d'inconvénient.
Non, pas du tout, sauf que c'est plus simple.
Bon, voilà. Alors, pour en revenir à Vigie, le syndicat est à l'origine de nombreuses plaintes et actions en justice contre Nunez, Lallemand, Castaner, c'est une mauvaise habitude que j'ai prise. Hein. Mais nous allons bien entendu y revenir. Alors, je t'avais donc contacté fin 2019 suite à l'apparition de ton livre « L'ennemi de l'intérieur » sous-titré « Dérives et dysfonctionnement de la police nationale », ouvrage paru chez Talma Studio. Alors, titre sans ambiguïté et propos sur lesquels nous allons aussi, bien entendu, revenir. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es le secrétaire général du syndicat Vigie, un des syndicats de policiers, qui, pour la petite histoire, et tu en parles dans ton ouvrage, est une émanation de la CGT. Il y a un passage assez croustillant dans le livre. Alors, tu es entré dans la police nationale en 2005, après des études de droit, et sans réelle vocation pour le métier, d'après ce que tu dis. Tu aimes citer Jean de La Fontaine. Tu te qualifies volontiers d'anarchiste de droite et tu t'es présenté à la députation en 2017 sous l'étiquette de la France insoumise. Biographie qui, je trouve, assez atypique pour un policier. Alors, avant de revenir à l'actualité, tu écris dans ton livre « La police nationale m'a lancé dans le syndicalisme ». Sans doute après un début de carrière à l'aéroport de Roissy où tu as appris à connaître les brimades, les menaces et la toute-puissance d'une hiérarchie aux méthodes assez staliniennes. Mais là aussi, je pense qu'on va y revenir. Alors, peux-tu, en guise d'introduction, revenir sur cet épisode que tu relates en détail dans ton livre, épisode qui me paraît assez révélateur des méthodes de fonctionnement au sein de la police nationale?
Oui, avec plaisir. Donc, déjà, merci de m'accueillir. Et donc, en fait, au début, je pensais pas que c'était des méthodes généralisées. Je pensais que j'étais tombé sur un cas atypique et que j'avais pas eu de chance. Et ce qui se passait, c'est quand j'étais à Roissy, j'étais donc déjà au renseignement, et un supérieur hiérarchique, un commandant, me voit rasé de 2-3 jours, voilà. Il me dit, la prochaine fois que je vous vois, est-ce que vous êtes rasé avec une biscotte ce matin? Je lui dis, non. Et il me dit, la prochaine fois que je vous vois comme ça, je vous tue. Il faut vous raser. Donc, du coup, dans le travail de renseignement, on côtoie différentes personnes. Et en plus, déjà à l'époque, avoir une barbe de quelques jours était plutôt à la mode. D'ailleurs, même les rasoirs Gillette proposaient des rasages de 2-3 jours. Donc, c'est pour dire qu'on était dans un autre temps. Et lui, il était resté sur le petit port de la moustache des années 70. Donc, du coup, moi, ça m'a choqué. Le lendemain, je retourne le voir. Je dis, commandant, écoutez, des fois, on peut s'emporter. Il y a peut-être des choses. Donc, moi, vos propos m'ont choqué. Et il me dit, non, je vous confirme, la prochaine fois, je vous tue. Bon, et donc c'est là que je me suis dit, bon, il y avait un problème. Moi, je ne suis pas rentré dans la police pour me faire insulter ni menacer de mort. Si c'était ça, je me suis dit que j'allais résister. Tous mes collègues de travail m'ont dit, non, mais ne t'embête pas, fais le canard, ne dis rien et ça va se passer. Ben, j'ai dit non, moi, si c'est comme ça, je préfère qu'on me vire. Enfin, je veux dire, je ne suis pas rentré pour cela. Résultat des courses, je fais des mains courantes. J'ai la chance d'avoir une major de police qui m'épaule, qui était chef de groupe, qui me fait faire un certificat médical pour avoir le port de la barbe. Et au final, quelques mois après, je devais être passé titulaire. Donc dans la fonction publique, il faut savoir qu'on a un an de stagiaire, c'est à peu près un an de période d'essai. Et au bout de ces un an, on peut soit être viré, soit être prolongé. Il y a plein de possibilités. Donc là, il proposait que ma période de stage soit prolongée de 3 mois. Ce qui veut dire que pendant 3 mois, sur toute ma carrière, j'aurais 3 mois de retard pour mes avancements, mes salaires, etc. Donc là, j'ai décidé de pas me laisser faire. Il y a eu le syndicat Alliance qui m'a défendu à l'époque, qui a bien fait son travail, qui est monté voir. Et puis le commissaire qui était copain du commandant a dit non, non, non. Sachant qu'il faut savoir, c'était vraiment là de l'ego personnel, parce que ce commandant était parti à la retraite entre les deux pour aller travailler chez Air France, ce qui va avoir son importance pour la suite. Résultat des courses, le syndicaliste d'Alliance fait son travail, donne les textes de loi. On se rend compte que certains rapports que j'avais faits sur la situation n'étaient pas arrivés jusqu'à la directrice de la police de l'aéroport. Malgré tout ça et malgré tout le fiasco administratif qu'il y avait derrière, le commissaire n'en démord pas. Finalement, le syndicat Alliance, il dit « comme vous ne comprenez rien à la loi, on va utiliser vos méthodes ». Donc ça veut dire, imaginez maintenant, je vais aller voir Air France et dire que la personne que vous avez recommandée menace de mort ses employés. Qu'est-ce que vous pensez que Air France va dire ? Et deuxième chose, je vais aller voir l'IGPN, parce qu'on n'a pas le droit de travailler quand on est officier pendant 5 ans sur son dernier lieu d'affectation, pour éviter tout acte de compromission, de conflit d'intérêts. Et là, du coup, il s'est arrangé en disant « bon, c'est bon pour cette fois, Alexandre, il peut rester au renseignement et il n'aura pas de report de titularisation ». Donc ça a été une expérience riche en enseignement pour montrer que la hiérarchie policière n'avait pas peur de la loi, pouvait la tordre, la plier, mais avait plus peur de sa réputation et des conséquences si elle était mise en cause personnellement dans des affaires. Donc ça a été très formateur. Et finalement, mes collègues de travail m'ont dit à l'issue de cette procédure, « bravo à toi, on n'aurait jamais osé attaquer l'administration ». Donc là, ça m'a donné confiance sur quelque chose. Mais après, je ne pensais pas que ça se reproduirait, vu que je pensais que j'étais tombé sur le mauvais coucheur de l'équipe.
D'accord. Alors, il y a aussi deux points sur lesquels je voulais revenir, que tu cites effectivement dans ton livre. Et que tu as pas mal évoqué aussi au cours des interviews que j'ai pu entendre sur Internet. Il y a l'affaire d'un que tu appelles le prix du sang, qui est un commissaire qui est à l'origine d'un accident mortel au Yémen. L'État verse 215 000 euros à la famille donc pour qu'il n'y ait pas de suite. Et donc ce type passe en conseil de discipline et il est muté en Corse. Alors il y a un autre exemple qui est celui de Nicolas Delef, qui était à l'époque directeur adjoint de la DRPP. DRPP, c'est la Direction du Renseignement de la Police Nationale, de la Préfecture de Police, pardon. Donc accessoirement, cette personne était le neveu de Giscard d'Estaing. Et donc il a piqué dans la caisse pour payer ses frais d'habitation, en l'occurrence, je crois, un château qu'il avait acheté. Et donc lui a été déplacé en tant que chargé de mission. Il y a aussi l'affaire Frédéric Pechenard que tu évoques, donc tu vas peut-être nous expliquer ce que c'est. Et puis, tout à l'autre bout de la chaîne, on a l'exemple d'un cuistot qui est viré pendant 15 jours pour avoir piqué 4 steaks avariés dans la poubelle de la cantine. Alors, la première question que je voulais te poser, c'est suite à ces révélations, parce que je veux dire quand même, tu balances du lourd, est-ce que tu n'as jamais eu peur pour ton intégrité physique ?
Alors pour mon intégrité physique, non, j'ai jamais vraiment eu peur. Enfin, je me suis jamais posé la question parce que j'ai fait ce qui me semblait juste dans la continuité de mon engagement de policier, c'est-à-dire défendre l'intérêt général, les lois, la liberté individuelle. Donc je me suis jamais posé la question. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est d'ailleurs le ministère de l'Intérieur n'en a pas besoin en fait. S'il y a d'autres méthodes qu'ils utilisent, c'est-à-dire avoir des rétentions disciplinaires, essayer de casser mon salaire, de briser mon poste, de pas payer, enfin de trouver des petits arrangements, du harcèlement moral au travail. Ils ont plein de méthodes qui leur permettent de faire d'intégrité physique. Et peut-être que dans leur tête, je dis bien peut-être, parce que le directeur de la police nationale, Monsieur Morvan, pas celui actuel, mais le précédent, avait reconnu qu'il y avait un problème structurel dans la police qui poussait ses agents au suicide. Donc peut-être qu'avec un management pareil, il pensait que le problème se résoudrait de lui-même. Donc je me suis jamais senti menacé physiquement. Et les seuls qui pouvaient me menacer n'avaient pas besoin de le faire, c'est-à-dire que c'est le ministère de l'Intérieur qui a mon adresse, mes comptes bancaires, qui gère mes traitements, mon salaire et qui connaît toute ma situation personnelle.
Oui, enfin peut-être que cette institution n'a peut-être pas jusqu'à présent connu un tel résistant comme toi, je sais pas.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà eu des résistants dans la police, des gens qui ont dit les choses, et il y a eu vraiment un changement de cap avec l'arrivée de Valls en tant que Premier ministre. Ouais. Et après, mais il y avait encore, là, ça a été durci au niveau des lois et de l'utilisation de la police. Mais après, sur le dialogue interne dans la police, c'est vraiment, il y a eu un changement de cap énorme depuis Emmanuel Macron. C'est-à-dire que j'ai pu connaître la présidence de Sarkozy, la présidence de Hollande. Et dans les deux cas, même s'il y a eu des conflits syndicaux ou des prises de position très tranchées, aucun n'a utilisé les procédures disciplinaires ou essayé de faire taire les gens et de les détruire pour juste son ego personnel et qu'il n'y ait pas de vague dans la police. Là, pour le pas de vague, je rappelle juste à titre d'exemple pour montrer jusqu'à quel point ils sont. À Paris, on avait voulu faire une manifestation pour une de nos collègues qui s'était suicidée oui. sur ce chez elle. Elle s'était suicidée en laissant une vidéo avant de commettre cet acte irréparable, en disant « la police nationale dira que j'avais des problèmes personnels, je les ai réglés. Si je me suicide aujourd'hui, c'est parce que ma hiérarchie a eu un comportement, un management délétère, m'a poussé à ce drame et je ne supporte plus ce que je vis au quotidien. » Donc elle a dit « ne les laissez pas s'en sortir les mains propres ». Résultat des courses avec une personne comme ça. L'enquête du procureur a conclu qu'il y avait c'était problème personnel quand même, il n'y avait pas d'implication de la hiérarchie. Et quand on a voulu faire une manifestation sur la voie publique à Paris, au Trocadéro, entre 30 et 50 policiers, donc rien d'exceptionnel au mois de novembre dernier, le préfet de police Didier Lallement a interdit la manifestation à cause des risques sanitaires et des risques de débordement. Donc voilà, on en est dans la police nationale où il faut tout cacher, il ne faut rien dire, même des choses qui semblent les plus basiques et la protection de la vie. Donc effectivement, c'est la première fois qu'on voit ça, ce durcissement, de dire, plutôt que d'essayer de régler les problèmes ou de dialoguer pour donner des réponses de source, qui était la politique avant, c'est que là, on va détruire les problèmes, on va cacher les problèmes et tous ceux qui les dénoncent, on va les faire taire. Donc c'est là où il y a eu un vrai changement de cap et qui est quelque chose d'inédit dans la police nationale.
Oui, alors ça fait partie des questions que je voulais te poser sur cette problématique du suicide, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Je voulais qu'on revienne un petit peu à ce que je dirais, ce qui est ton actualité. Donc pour résumer, tu es passé devant l'IGPN, ça je pense qu'on va aussi y revenir puisque tu l'évoques abondamment dans ton livre et on s'aperçoit que les méthodes sont complètement surréalistes. Donc suite à ça, tu es passé en conseil de discipline qui ne s'était pas prononcé je crois à l'époque et tu as eu 12 mois de suspension dont 6 avec sursis. Ensuite tu avais, alors c'est là que moi j'avais perdu un petit peu le fil, en novembre 2020 tu avais envoyé ta démission avec une rupture conventionnelle. Et là, tu reviens un petit peu sur l'actualité avec la décision du tribunal administratif de Versailles qui a jugé donc que... Alors oui, entre-temps, tu as été mis à pied par Darmanin. Donc Darmanin a fait ce que Castanière n'avait pas osé faire. Et donc le tribunal administratif de Versailles a jugé la sanction disproportionnée. Alors la citation exacte, c'est « Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la sanction dont la sévérité est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ». Donc, tu es toujours dans la police nationale. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tout ça ?
Alors oui, effectivement, c'est pas la même chose. Donc je demande une première fois une rupture conventionnelle en juin 2020. Bon, après, le temps se passe tranquillement. Il y a l'affaire Michel Zecler qui fait que là, novembre, je relance en disant là, j'ai besoin d'une réponse parce que ça me devient insupportable de travailler pour un employeur public qui tolère de tels comportements.
Ouais, Michel Zecler, tu peux peut-être rappeler pour les auditeurs. Donc
Michel Zecler, oui, pardon. Donc qui est ce producteur de musique sur Paris qui s'est fait tabasser par 3 policiers et pour même s'il avait une boulette de shit, c'est contraventionnel et du coup, ça ne mérite pas de se faire taper dessus à coups de matraque. Et du coup, ces images, en fait, les images, ce qui avait été aussi dramatique, c'est qu'Emmanuel Macron ou Gérald Darmanin n'ont pas été choqués par le comportement des policiers, ils ont été choqués par les images. Voilà, et ce qui était concomitant à l'affaire de la loi Sécurité Globale qui voulait interdire les images de policiers pour protéger les petites manigances et les petits comportements de certains miliciens qui ne méritent pas le nom de policiers. Avec la chose suivante, c'est que, c'est très important, M. Darmanin avait dit que c'était pour protéger les policiers, cette loi Sécurité Globale, pas du tout. On a eu une collègue qui avait été victime justement de quelqu'un qui avait fait des captations vidéo dans le but de lui nuire, ça a été prouvé, la personne s'est pris 17 mois de prison avec les lois actuelles. Donc c'était vraiment pour là empêcher la presse, les journalistes et les gens de filmer certaines actions de la police qui étaient illégales, ou alors certaines actions de la police qui pouvaient être violentes mais légales, mais dont l'administration ne voulait pas faire d'explication pédagogique. Donc tout ça a fait que j'ai voulu partir de la police plus rapidement et d'accélérer la procédure. Je n'ai pas eu de réponse, une fois de plus. Et la seule chose que j'ai eue, c'est juste avant mes vacances, ce qui est rigolo, l'administration choisit toujours la veille des vacances, pour m'envoyer un petit recommandé, me dire que j'étais convoqué à un conseil de discipline au mois de janvier. Mois de janvier, conseil de discipline, avec quelque chose de très intéressant à ce conseil de discipline. Comme la première fois, là pour le coup, c'est tous les syndicats de police présents ont refusé de participer au vote. Au premier conseil de discipline, Unité SGP était resté siégé. Là même, eux ont refusé de prendre part au vote. Et la deuxième chose, c'est que j'étais défendu par des gens qui étaient venus non pour défendre notre petite personne, mais pour défendre la liberté d'expression. Parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un danger pour tout le monde, au-delà de la police. J'avais quelqu'un de l'AFPIP, qui est un syndicat plutôt d'extrême droite, enfin classé d'extrême droite. J'avais quelqu'un, j'avais Gérard Miller et j'avais David Dufresne. Et toutes ces personnes se sont mises autour de la même table, On a des idées très tranchées et on ne sera jamais du même bord. Mais par contre, pour défendre la liberté d'expression, nous sommes tous ensemble. Et c'est important qu'on battait, en fait, le débat du sujet, c'était la liberté d'expression. Donc le conseil de discipline, une fois de plus, ne se prononce pas pour une sanction. Et là, c'est Gérald Darmanin, un mois plus tard, qui dit « Non, non, mais moi j'estime que la liberté d'expression, c'est pas possible. » Donc révocation, c'est-à-dire virer de la police. Finalement, je fais un référé avec mon avocat. Mon avocat fait le référé au tribunal administratif de Versailles. Et effectivement, c'est ce que tu viens de citer, la sanction semble disproportionnée avec un doute légitime sur la légalité. Il faut savoir qu'en parallèle, ce qui m'était reproché une fois de plus, c'était un tract syndical qui mettait en cause l'ancien directeur de la police nationale qui avait vu 114 suicides, la falsification des chiffres de délinquance prouvés par audit, que des choses qui étaient factuelles. Et cette personne avait confondu en fait la police nationale avec sa personne, a priori, parce que il avait demandé une enquête IGPN à être bouclée en 5 jours, qui devait aboutir à ma culpabilité, 5 jours dont 2 jours de week-end. Et c'est sur cette base que Darmanin a choisi de me sanctionner. C'est sur cette base que le tribunal administratif a dit qu'il y avait un sérieux problème. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a encore une certaine séparation des pouvoirs en France. Donc aujourd'hui, je suis réintégré dans la police nationale. Donc par contre, il y a les petites brimades, j'allais dire, de rétorsion et de coercition qui continuent. Moi, je travaille dans un service de renseignement. J'avais refusé de passer l'habilitation confidentielle défense il y a 2 ans parce que la DGSI avait vidé mon téléphone syndical. Du coup, ils ont dit que j'avais un refus d'habilitation, que je ne pouvais plus travailler dans mon service. Je leur ai dit comment on peut me refuser quelque chose que c'est moi-même qui ai refusé de passer. Donc ça, j'ai pas eu de réponse. Donc ils m'ont dit je suis affecté dans un service dans lequel je n'ai pas le droit de travailler. Et la deuxième chose, je devais récupérer mon salaire vu que la sanction a été suspendue. Mon salaire, je ne l'ai pas encore récupéré, donc je ne sais pas quand je serai payé. Donc il y a ces petites brimades et sanctions déguisées. Et au final, j'aurais dit, moi j'ai toujours demandé une rupture conventionnelle, donc laissez-moi partir. Surtout que lors du procès, j'avais découvert que j'avais reçu un avis très favorable pour cette demande de rupture conventionnelle. Donc on est dans les petites brimades. Et sur la proportionnalité de la sanction, ce qui est assez intéressant et de la conception de la justice et de quels sont les faits fautifs dans la police nationale selon Gérald Darmanin? Au mois de juin dernier, nous avons un collègue, le brigadier Ben Mohamed, qui avait dénoncé des mauvais traitements.
Oui, tout à fait, on en avait parlé, oui.
Au dépôt du tribunal de Paris. Du coup, les personnes qui avaient commis ces actes, ils ont pris entre un avertissement et 3 jours d'exclusion temporaire de fonction par Gérald Darmanin en janvier 2021. Donc pour Monsieur Gérald Darmanin, il est plus grave de dénoncer par un tract syndical des choses qui sont exactes plutôt que de tenir des propos racistes, d'avoir des comportements injurieux et des comportements dégradants. Même chose également, je rappelle l'actualité toujours sur Gérald Darmanin, parce que je prends que l'exemple qui est comparable. Nous avons eu des policiers qui sont allés en armes à l'appel de syndicats devant le tribunal de Tours pour contester une décision de justice qui condamnait un policier qui avait donné une gifle. C'était pendant le couvre-feu également. Aucune sanction. Voilà, pour Gérald Darmanin, il n'y a pas de problème que des gens se baladent sur la rue. Là, pour le coup, moi, c'est ce que j'appellerais les séditieux. Et deuxième chose également, il y a eu des policiers en armes, pendant le couvre-feu, en uniforme, qui sont allés devant le domicile privé de la maire de Rennes au mois de décembre également, pour contester sa politique, alors qu'elle est en responsable de rien de la police nationale. Et donc les sanctions sont enfin tombées au mois de janvier également, et ça a été 11 avertissements. Ça veut dire c'est pas bien, faut pas recommencer. Donc c'est pour montrer le degré dans la hiérarchie de ce qui est grave dans les sanctions et les comportements de policiers pour Gérald Darmanin.
Et donc pour la suite, ça va être quoi pour toi? Qu'est-ce qui va se passer après le tribunal administratif?
Alors, le tribunal administratif, ben, j'attends toujours du coup j'espère qu'un jour l'administration va respecter la décision du tribunal administratif, donc me repayer, me permettre d'exercer mon travail. En attendant, j'espère dans un avenir très proche, ce qui réglerait d'ailleurs tous les problèmes et différences que je peux avoir à l'administration, accepter ma rupture conventionnelle pour que je puisse passer à autre chose.
D'accord. Alors, justement, à l'origine de cette affaire, il y a la fameuse caricature, enfin, je sais pas, le dessin humoristique que tu évoques, hein, à propos d'Éric Morvan. Et notamment, tu parlais dans ce tract de la manipulation des statistiques. Alors, dans ton livre, tu expliques que c'est une politique du chiffre, hein, qui a été initiée par Sarkozy. Et alors, ce qui est assez hallucinant, c'est que cette politique du chiffre, donc, qui se traduit par une manipulation des statistiques, peut conduire, alors j'ai relevé les chiffres, pour un commissaire, enfin pour un gradé, à une augmentation de salaire qui est comprise entre 10 000 et 25 000 euros, suivant le grade, et ça peut atteindre 100 000 euros. Et dans ton livre, tu cites également là où un simple gardien de la paix doit payer de ses propres deniers certains frais de mission. Alors, est-ce que tu peux nous préciser tout ça?
Alors, c'est très simple. Nicolas Sarkozy a mis en place la politique du chiffre, pensant qu'un service public devait être rentable. Donc déjà, pour donner la bêtise de cette analyse, qui reste encore que politique pour le moment, mais quand même qui est assez peu pertinente, quand des collègues rentraient dans les années 70-80 au commissariat et qui marquaient « rien à signaler, quartier calme », ils avaient des félicitations. Aujourd'hui, la politique du chiffre a fait qu'il faut trouver pour avoir des statistiques pour la communication du gouvernement. Avec, par exemple, j'ai l'exemple encore récemment, des collègues qui avaient fait tant d'interpellations pendant une année. L'année suivante, c'était en baisse. On leur a dit, il faut que vous nous trouviez le même nombre. Sinon, on ne va pas pouvoir justifier nos chiffres. Ils ont dit, peut-être que, comme on a bien fait notre travail, la délinquance a baissé, s'est déplacée, et donc on devrait être félicité. Non, il faut que les chiffres soient stables. Donc la délinquance ne peut pas baisser dans les statistiques en France, vu que chaque commissaire veut toujours du chiffre. La deuxième chose, après, ça permet de toucher des primes. C'est pas pour rien qu'ils veulent du chiffre. Donc chacun, en fonction de ses bons résultats, c'est des primes individuelles qui ont été un petit peu corrigées quand même, faut le noter. C'est la seule chose positive qui a été faite sous Emmanuel Macron, c'est que c'est devenu plus à 80% des primes collectives d'unité. Mais on en reste toujours dans un concours de statistiques et que c'est plus rentable de faire 100 personnes avec une boulette de shit, voilà, c'est une contravention, c'est résolu, on n'en parle plus, que démanteler un trafic, par exemple, parce que ça, c'est qu'un seul bâton. Ouais. Donc après, effectivement, ça donne des primes. Donc les gardiens de la paix, le corps de jusqu'à major, on peut avoir des primes allez, jusqu'à 1000 euros, quelques centaines d'euros à 1000 euros. Quand on est officier, donc ça peut effectivement peut-être jusqu'à 25 000 euros. Et le point avait fait le calcul pour un commissaire de police et directeur d'un service en région parisienne, ça peut monter jusqu'à 160 000 euros. Donc ça montre des choses assez incroyables. Il y a de l'argent, encore faut-il bien le déployer. Quand on nous dit bah, on ne peut pas recruter de policiers parce que ça coûte trop cher, on ne peut pas refaire les commissariats, 160 000 euros, voilà, mon salaire annuel, on est à 30 000 euros. Donc c'est 5 policiers comme moi, tout frais compris. Et encore, on a une petite rallonge de 10 000 euros. Donc ça montre un petit peu cette chose. Et après, à force de courir après le chiffre, on n'assure plus la tranquillité publique. Et aussi cette philosophie d'un côté, on assure la tranquillité de la com gouvernementale, de l'autre côté, on assure la tranquillité publique, ce n'est pas du tout la même chose. Et pour montrer comment on trafique les chiffres de la délinquance, donc nous, on avait démontré sur Marseille, parce que là, il y avait des collègues qui avaient eu le courage de nous donner les documents, des victimes qui avaient osé aussi dénoncer la non-prise en compte de leurs préjudices. Et ça avait permis de démontrer qu'en fait, par exemple, quand quelqu'un est victime d'une tentative de cambriolage mais que rien n'est volé, c'est requalifié en dégradation volontaire. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est un délit, l'autre, c'est une contravention. C'est-à-dire que hop, ça disparaît des chiffres de la délinquance pour passer en contraventionnel. Même chose quand quelqu'un se fait voler son sac à main, quand c'est une femme, ou son téléphone portable par quelqu'un qui vous l'arrache des mains. C'est un vol à l'arraché, donc un vol avec violence. Et résultat des courses, si jamais on le requalifie en viol simple, les violences mathématiquement baissent. On avait dit qu'avec une telle procédure, les chiffres de la délinquance allaient finir par être négatifs. Et sur Marseille, où les chiffres, on les avait dénoncés qu'ils avaient été falsifiés, le lendemain de la publication de l'annonce de la baisse des chiffres de la délinquance par le préfet de police et le directeur départemental, il y avait des règlements de compte à la Kalachnikov dans la cité. Cela n'a pas empêché, en plus donc des primes de nos dirigeants, le directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône d'avoir une promotion grâce à ses bons résultats sur le papier pour être promu directeur central de la sécurité publique, c'est-à-dire qu'il a le contrôle de 50% des policiers grâce à ses bons résultats. Donc avec notre avocat, nous avions déposé plainte pour escroquerie en bande organisée parce que justement, il y avait des bénéfices qui étaient tirés par certains hauts gradés qui avaient des primes exorbitantes qui n'étaient pas méritées, plus des promotions, et nous avons porté plainte pour faux en écriture publique. Un audit interne a été fait confirmant que les chiffres étaient falsifiés et l'administration s'est bornée à dire « Non, mais nous, on a fait notre travail, on a fait un audit ». Mais l'audit, en fait, il dit que les chiffres sont falsifiés. Mmh. Et ça venait confirmer deux rapports parlementaires sur la falsification des chiffres de la délinquance et un rapport de l'inspection générale de l'administration. Donc là, on sort du cadre de la police. C'est celle qui gère toutes les administrations en France. Et bien, dans la police, il y a un sérieux problème avec vos chiffres. Donc voilà, donc au bout d'un moment, il y avait deux poids, deux mesures. Et la mesure qui a été choisie d'être gardée, c'est les chiffres factices pour faire plaisir à nos gouvernements.
Oui, effectivement. Alors, parmi les chiffres que j'ai notés, là, tu parles de manque de moyens dans la police, mais parallèlement, il y a des gens donc, qui ont les salaires qui sont mirobolants. Tu cites le non-paiement de 140 000 années d'heures supplémentaires et également l'achat en 2019 de 25 millions de balles pour fusils d'assaut. Alors, qui sont des armes de guerre, donc on se demande ce que ça vient faire dans la police nationale. Mais donc, comme tu dis, l'argent, il y en a.
Ben, il y en a, mais à mauvais escient, c'est toujours pareil, c'est qu'effectivement, les heures supplémentaires sont accumulées. C'est une pratique, malheureusement, dans la police nationale où les heures supplémentaires, on est à donc 140 000 ans, ça fait plus de 25 millions d'heures supplémentaires. Mais malheureusement, c'est une pratique qui, dans les autres administrations aussi, nos collègues de l'hospitalière ont les mêmes difficultés. C'est-à-dire que plutôt que d'embaucher des fonctionnaires, comme les gens sont là par conviction et ont aiment le travail bien fait, ils donnent de leur temps. Et on leur dit, on vous payera plus tard. Et les gouvernements sont complètement irresponsables parce qu'en fait, ils épuisent les personnels de la police nationale, ce qui peut les conduire à des fautes professionnelles très graves. Et la deuxième chose, en fait, ils reportent le problème pour les gouvernements suivants et donc les générations futures, au final. Parce que quand un policier, là, on a eu quelqu'un qui est parti à la retraite avec 8 ans en avance. En fait, il n'est même pas à la retraite, il est payé pendant 8 ans en avance parce que l'administration refuse de payer les heures supplémentaires et les étale pendant 8 ans avec son salaire normal. En plus, c'est doublement pernicieux parce que ce fonctionnaire n'a plus d'avancement parce que plus personne ne veut s'occuper de le défendre vu qu'il est à la maison. Il ne peut pas travailler pour autant parce que du coup, il est toujours payé par la police nationale. Comme nous sommes gérés par des statistiques, il reste dans les effectifs. Donc, il y a une place qui est prise mais qui n'est pas pourvue réellement sur le terrain. Donc, c'est catastrophique à part d'un point de vue budgétaire, enfin, même pas budgétaire, manipulation budgétaire serait le terme exact. Donc en fait, on est en train de faire n'importe quoi et quand Emmanuel Macron dit « je recrute 10 000 policiers et gendarmes sur le quinquennat », il faudrait savoir combien sont payés à la maison parce qu'ils ont accumulé des heures supplémentaires par milliers et combien départs à la retraite, combien de ruptures conventionnelles. Donc on va partir avec un chiffre négatif à la fin, malgré tout. Et ensuite, sur le matériel, effectivement, on nous a acheté des armes de fusil d'assaut. Donc c'est surtout la quantité qui pose problème parce qu'effectivement, il y a certaines unités spécialisées comme le RAID qui peuvent avoir besoin des fois d'armes d'assaut pour mener, comme ça a été le cas à l'hyper Cachère ou au Bataclan des assauts contre certains terroristes, mais ils n'ont pas besoin de 25 millions de balles. Donc ça pose des sérieuses questions sur qu'est-ce qu'on fait. Et d'ailleurs, plutôt que d'embaucher des êtres humains qui permettent justement de calmer les choses, d'avoir un contact et d'éviter l'usage des armes, les gouvernements, depuis donc M. Sarkozy, remplacent l'être humain par des armes, ce qui est quand même une certaine philosophie dangereuse, aussi bien pour les policiers que pour la population. Donc on aimerait bien plutôt avoir un recrutement adapté, avoir des commissariats au plus proche de la population. Les commissariats sont fermés au fur et à mesure pour être centralisés avec des temps d'intervention d'une heure et demie, avoir le temps de connaître la population plutôt que d'avoir des opérations coup de poing avec un arsenal militaire digne de zone de guerre.
Tu parlais des statistiques dans les Bouches-du-Rhône. Alors est-ce que ça a trait vous certains David Chantreux? Est-ce que c'est lui qui était impliqué là-dedans?
Alors David Chantreux, lui, non, il n'est pas impliqué là-dedans. Lui, c'est à l'IGPN. Donc c'est un monsieur très gentil qui est dans les hauts responsables de l'IGPN, qui est toujours dans les coups de blanchiment des affaires de police qui gênent le pouvoir. Il est, comme son ami monsieur Démoli, ils sont dans l'affaire Steve Cachino, dit que tout allait bien circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, donc ça, c'est plutôt des gens qui refont les rapports d'enquête de l'IGPN pour qu'ils collent à la demande politique de ce qu'on attend d'eux.
Ouais, alors justement, j'avais une question par rapport à ça, parce que donc tu parles de l'affaire Steve. Hein, je rappelle, Steve, c'est ce jeune homme qui s'est noyé dans la Loire à Nantes. C'était en juin 2019, je crois, c'était pendant la fête de la musique. C'était suite à une charge de CRS lors de la fête de la musique. Et alors, dans ton livre, tu cites justement, tu fais le parallèle avec la mort d'une collègue de la brigade fluviale qui a été repêchée 4 mois après. Et donc, tu expliques que ce serait pour permettre de ne pas mettre en évidence qu'elle avait un équipement pourri. Moi, ça m'a complètement... je suis tombé sur le cul en lisant ça. Donc, une collègue qui tombe dans la Seine, je crois, elle est repêchée 4 mois après. Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça?
Effectivement, voilà. Donc, on avait une collègue qui normalement n'aurait pas dû être apte à venir à la brigade fluviale. Mais à part piston, elle a quand même été prise. Donc, ce qui prouve que les pistons, des fois, peuvent se retourner contre les personnes qui en bénéficient et que l'administration devrait mettre des garde-fous et écouter les professionnels. Il y a beaucoup de collègues qui étaient plongeurs qui ont dit qu'elle n'a pas sa place chez nous. C'est une très bonne nageuse, mais elle ne sait pas plonger. Et à un moment, elle a profité d'un changement de brigade pour dire, attendez, moi, je vais faire un petit peu l'épreuve d'initiation, j'allais dire, que les plongeurs parisiens, quand ils arrivent à la brigade fluviale, font, c'est d'aller chercher du sable au fond de la Seine et remonter. Sauf que là, il y a un exercice qui a été prévu. L'exercice était prévu pendant une crue de la Seine. Donc la crue, c'était un moment dangereux, on ne voyait rien. Elle a quand même voulu faire ça et finalement, un enchaînement a fait qu'elle en est morte noyée parce qu'il y a eu tout un enchaînement de choses qui ne marchaient pas. Il y a déjà la crue de la Seine, il n'y aurait pas dû avoir l'exercice. La commandante qui gère l'unité a dit que c'était un exercice prévu de longue date. Faux, ça a été prévu le matin même au doigt mouillé. Donc le préfet de police a menti pour couvrir la commandante. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le matériel, normalement on a un gilet de sauvetage qui permet de se gonfler quand on tire sur une manette, il n'avait pas été vérifié. Des collègues avaient proposé même de passer le diplôme pour pouvoir vérifier les gilets de sauvetage à gonfler en cas d'urgence, parce que l'administration ne faisait pas les révisions avec des organismes autres que l'administration, oui. Et même ça a été refusé. Donc là, voilà, on pense qu'ils ont mis 4 mois à la retrouver, entre autres, pour pas qu'on voit que le matériel avait été défaillant ou mal utilisé. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est quand le canard enchaîné a fait un article, la semaine suivante, curieusement, on a retrouvé le corps, on a pu le repêcher. Donc ça veut dire que pendant 4 mois, quand même, il y a eu une famille qui était en deuil, des gens qui n'ont pas su ce qui se passait. C'est pour ça que je fais le parallèle avec Steve à l'affaire de Nantes de la Fête de la Musique, parce que le repêcher plus tardivement, je rappelle qu'à l'époque, M. Castaner avait dit qu'il devait sûrement être sous stupéfiant ou sous alcool, pour justifier qu'il était mort dans la Loire. Mais du coup, plusieurs mois après, avec la décomposition dans l'eau, impossible de le savoir. Donc au final, il y aura toujours cette suspicion qui bénéficiera au ministre, enfin dans tous les cas aux déclarations du ministre, ce qui est assez malheureux parce que tous les gens autour disent que c'était quelqu'un qui avait une vie sobre et saine. Donc il y a tout ce deux poids deux mesures, donc il y a à chaque fois les procédures traînent. Par exemple, quand moi, l'administration m'envoie au tribunal ou un délégué de vigie ou des gens qui gênent, par exemple le brigadier Ben Mohamed, les procédures vont assez vite. Dans le cas de notre collègue qui s'est noyé dans la Seine, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est qu'elle était au syndicat une sapoliste. Et notre avocat nous dit, écoutez, vous voulez pas vous mettre partie civile dans cette histoire pour aider les juges d'instruction à... Ça leur ferait du bien d'avoir un syndicat partie civile. Je dis, nous, on n'est pas sur la concurrence syndicale, elle est à l'UNSA Police, on laisse l'UNSA Police faire son travail. Et ils ont dit, mais l'UNSA Police, ils ont rangé tout, ils sont du côté de l'administration. Donc du coup, à partir de là, on est devenu partie civile parce que même le syndicat chez qui elle était adhérente a préféré les petits arrangements amicaux avec l'administration plutôt que d'aller défendre la mort d'une de ses adhérentes. Et ce qu'on peut voir dans l'affaire Steve à Nantes également, c'est que le procès est toujours en attente, ça dure des plombes. Et alors que quand, par exemple, un gilet jaune commet un acte délictuel, il part en comparution immédiate. Donc c'est ce deux poids deux mesures qui est assez insupportable en fonction de si on remet en cause l'institution politique actuelle et le gouvernement, les procédures tombent comme des petits pains. Mais quand on dénonce des dysfonctionnements graves, qui sont également des faits criminels, ou au moins délictuel, là, ça n'avance pas et ça pose un sérieux problème sur l'état de notre démocratie en France.
Tree, when necklace of rose side by side.
Oui, puis il y a peut-être aussi une chose qu'il faut préciser, c'est que toutes ces procédures, dont la tienne, c'est toi qui en assumes le côté financier, alors que Éric Morvan et compagnie, donc c'est l'État via nos impôts qui paye toutes ces procédures.
Effectivement aussi, oui, c'est ce qu'on avait pu voir. Alors moi j'ai la chance d'être au syndicat, donc c'est le syndicat qui prend en charge tout ce qui concerne les choses. Et puis après, il y a aussi la population qui a permis d'aider à permettre de payer certaines procédures, parce que c'est un combat collectif. Et heureusement, ce serait tout seul, ce serait intenable, parce que je n'aurais pas les moyens de me défendre. Et effectivement, on l'avait pu le voir dans le cas d'un médecin agresseur sexuel de la police nationale. Donc on s'était battu. C'est une des choses que Éric Morvan avait couvert, ainsi que Christophe Castaner. Ils avaient donné la protection fonctionnelle à ce médecin, avaient couvert pour qu'il m'attaque pour diffamation, et il avait pour qu'il défende des victimes de ces agressions. Et au final, les victimes, qui étaient elles-mêmes policières, n'ont pas eu le droit à la protection fonctionnelle. Moi, je n'ai pas eu le droit à la protection fonctionnelle, et ce médecin a été condamné. Il n'y a pas eu de grand chose de plus, à part des sanctions disciplinaires malgré la condamnation. Donc il y a ce deux poids, deux mesures qui est assez insupportable. Ils ont l'argent de nos impôts. Quand ils perdent, c'est nos impôts qui payent leurs conneries. Et à côté de ça, ils se vengent quand même par le disciplinaire qui rengorge les procédures au tribunal administratif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, il y a ce côté nerf de la guerre, c'est l'argent, effectivement. Eux, ils ont l'argent en profusion de nos impôts, et sinon, il y a l'argent magique d'Emmanuel Macron, mais qui n'est pas pour les prestations sociales, c'est à noter. Et à côté de ça, nous, on doit s'unir avec nos petits moyens. Mais finalement, nous, on a le nombre. Et eux, ils ont juste les comptes en banque.
Oui. Alors, dans ce que tu dis, il y a une chose qui est importante et que tu soulignes également dans ton bouquin, c'est le poids, l'importance des syndicats. Alors, il y a un exemple assez marrant. J'avais dit, il n'y a pas qu'à Paris, sous Tibéri, que les morts y votent, hein, puisqu'il y a un membre de la CRS 33 que tu évoques dans ton livre, qui était toujours présent sur les listes électorales et qui a voté donc aux élections donc, syndicales. Et il y a aussi l'exemple, alors j'ai trouvé ça bien, parce qu'il y a quand même des résistants hein, dans la police. Il y a ce brigadier Thierry que tu évoques, qui est un résistant de l'intérieur, hein, qui... Enfin, tu vas peut-être nous en parler, parce que je trouvais ça assez marrant. Mais il y a surtout, son nom n'est pas mentionné, qui démontre un petit peu les tentatives de corruption de syndicalistes. Alors ce sous-brigadier, on lui propose une mutation hein, près de chez lui, avec passage au grade de brigadier. Et donc avec obligation de se rendre au boulot 3 jours par semaine, s'il peut. Et je trouve que la réponse de ce sous-brigadier, parce que je pense qu'il est resté sous-brigadier, est fantastique. Donc, il écrit au syndicat en lui disant « Les collègues sur place n'auront donc pas un nouveau gradé, vu que je ne prends le poste que fictivement. Par contre, un collègue réellement motivé, lui, n'aura pas le poste. C'est bien ça, point d'interrogation. Oui, point d'interrogation. » Et donc, il a cette phrase superbe. « Alors, notez que je vais refuser votre tentative de corruption. » Donc, est-ce que tu peux nous parler, justement, de... Parce que, donc, Vigie n'est pas le syndicat majoritaire, loin s'en faut. Comment ça fonctionne? Quels sont ces jeux de pouvoir qui se passent, ces échanges de bons procédés entre syndicats et hiérarchie?
C'est un peu résumé, là, c'était Thierry, c'était mon prédécesseur en tant que secrétaire général du syndicat, et à un moment, il avait vu, pour son évolution professionnelle, qu'il y a dans la police, on peut prendre des postes dans des zones difficiles, on appelle des postes SUEP, et à ce moment-là, on s'engage à rester 3 ans, et en échange de rester 3 ans à cadrer des plus jeunes grâce à notre expérience, on passe au grade supérieur. Et là, c'est même pire que ça, c'est qu'en fait, l'administration, elle dit, moi, je suis permanent syndical, moi, je suis prêt à retourner en service, ça ne pose pas de problème, mais comment ça va se passer? Et c'est là que l'administration lui a dit, écoutez, vous venez pas 3 jours par semaine. Vous venez juste 3 jours et vous repartez permanent syndical. Et c'est là qu'il a dit, c'est juste de la corruption. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que dans certaines zones difficiles, il y avait alors ce qu'il faut savoir dans la police aussi, c'est comme dans toute la fonction publique, pour éviter qu'un syndicaliste soit pénalisé sur sa carrière, il passe au tour moyen. C'est-à-dire que quand, par exemple, au bout de 10 ans de carrière, les gens passent en général brigadier, le syndicaliste passe brigadier pour pas qu'il prenne de retard à cause de son engagement militant. Donc jusque-là, ça semble normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que les syndicalistes, en plus de ça, se servent sur ces postes d'encadrement prioritaire. Et c'est ce qu'on a pu voir sur le 93. Par exemple, à un moment, le numéro 2 du syndicat Unité SGP était positionné à Villepinte, affectation dans un endroit difficile parce qu'il a passé son grade supérieur, mais il n'a jamais mis un doigt de pied en tant que chef, par exemple. Donc en fait, ces gens-là prennent des postes, après vont se plaindre qu'il y a un manque d'encadrement dans les quartiers les plus difficiles, où justement il y a besoin d'expérience pour encadrer les plus jeunes qui arrivent contre leur volonté, parce qu'en général, c'est les gens qui viennent de province qui ont qu'une envie, c'est de retourner chez eux et pas de travailler en région parisienne. Et donc c'est une concomitance de fait d'une responsabilité syndicale parce qu'ils veulent les postes, l'administration cachette les syndicats de cette façon parce qu'ils disent « Hey Coco, mais tant tu vas signer ça parce qu'il n'y a aucune raison que tu l'aies eu, c'est pas très légal et on a fermé les yeux ». Mais voilà, on en est là. Et même les syndicats vont même plus loin. C'est qu'ils ont des postes de responsables, par exemple, d'unité locale au niveau des majors ou des postes de commandant fonctionnel. Et en fait, ces postes, c'est l'un, le responsable d'unité locale, c'est pour remplacer un officier sur le terrain. Et l'autre, c'est pour remplacer un commissaire sur le terrain en tant qu'officier. Et en fait, ce n'est pas des grades, c'est des fonctions avec une réalité de terrain. Et en fait, ça permet d'avoir des suppléments de salaire. Et nous avons tous les permanents syndicaux de ces syndicats-là qui ont ces fonctions. Et quand on leur pose la question, mais ils encadrent qui sur le terrain ? Ah non, mais c'est des experts. Et quand on leur pose, d'accord, c'est des experts en quoi ? Et à chaque fois, nous n'avons pas de réponse. Donc en fait, voilà, contre des petits arrangements, des petites primes, des petites choses comme ça, bah, les syndicats après sont tenus, parce que c'est difficile de venir faire la morale quand on a bénéficié des largesses illégalement de l'administration.
D'accord. Alors il y a évidemment un point que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est celui des violences policières. Hein. Tu en parles beaucoup dans ton ouvrage. Alors tu expliques d'ailleurs que, en général, ce sont les hommes de terrain qui morflent, hein, parce que les vrais décideurs qui sont à l'abri dans leur PC, eux ne sont jamais inquiétés. Alors donc tu expliques effectivement que les forces de l'ordre n'ont quasiment aucune visibilité de ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils obéissent juste à des ordres. Alors j'ai quand même, moi, un bémol, il y a quand même des gens qui ont un certain courage, puisque je ne sais plus comment, je crois que c'était quelqu'un de la gendarmerie à Nice, c'était dans l'affaire Leger, qui avait refusé de charger. D'ailleurs, on trouve dans cette affaire un certain Ramasushi, sur lequel on va peut-être revenir. Alors moi, il y a un problème que je voulais me poser par rapport à la police. Est-ce que le problème de la police, ce ne serait pas la BAC ? Alors, nous, à Millau, on a plusieurs exemples. Hein. En 2012, on a un jeune maghrébin qui a été tué par la BAC. Alors, au départ, c'était légitime défense. Et ensuite, l'autopsie a révélé qu'il avait été tué à bout portant. Et tu expliques dans ton bouquin que, justement, ces gens de la BAC, qui ne sont pas du tout formés aux actions, enfin, aux manifestations, sont sur le terrain. Avec, alors, ce qui est assez, moi, qui m'a fait frémir, c'est que, pour avoir la certification de servir d'un LBD, qui est quand même considéré comme une arme de guerre, il faut faire une journée de formation en tirant 5 balles et en mettant 3 balles dans la cible. Et moi, j'ai également des témoignages de manifestations où on a vu des gens de la BAC. Récemment, à Millau, il y a eu une manifestation très bon enfant, un carnaval. Et il y avait, alors je ne sais pas si c'était quelqu'un de la BAC, mais il y avait un policier en civil qui avait un LBD, alors qu'il y avait des enfants. J'ai un ami syndicaliste qui lui a dit « Mais attendez, vous faites quoi, là ?» Récemment, c'est à 2-3 jours, à la Maison du Peuple à Millau, donc qui est occupée, il y a quelqu'un qui est sorti pour aller faire pisser son chien la nuit, qui s'est fait arrêter par 3 personnes. Alors, il faut savoir que c'est des gens de la BAC, il s'est retrouvé au commissariat. Il a refusé de signer le PV parce que les gens de la BAC n'avaient pas de masque, alors qu'on lui reprochait de ne pas avoir de masque. Voilà, je voudrais que tu reviennes un petit peu là-dessus. Est-ce que, moi, je dis, le problème de la police nationale, quelque part, c'est pas la BAC ?
Non, c'est l'utilisation et l'encadrement. C'est toujours pareil. Il y a différentes choses. Donc, déjà sur le maintien de l'ordre, effectivement, il y a des unités constituées qui ne peuvent agir que sur ordre. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas faire des choses d'initiative. Et ceux qui savent les choses, c'est ceux qui sont dans la salle de commandement ou, en tous les cas, un rôle d'officier. Donc, par exemple, ce qui se passe pour les gendarmes mobiles à Nice pour l'affaire Le Guet, eh ben, c'est lui qui a refusé, c'est l'officier. Et oui. Moi, par rapport à ce que je vois de ma place, c'est non. Ils vont me dégager, je ne vais pas les envoyer. La difficulté, c'est que dans la police nationale, les gars, les officiers, des fois, disent « on y va », ou ils n'ont pas forcément le recul nécessaire. Je rappelle également, c'est là où il y a aussi une résistance un petit peu, et c'est peut-être la différence aussi, c'est qu'en général, c'est pas en général, c'est sûr, dans la police nationale, ceux qui nous dirigent peuvent devenir directement commissaires. Dans la gendarmerie, tous les généraux ont commencé lieutenant. C'est-à-dire qu'ils ont commencé sur le terrain, ils savent de quoi ils parlent. Et ça, on avait l'expérience aussi, c'est que par exemple, il y a eu des pompiers qui avaient été coincés devant l'Assemblée nationale pour manifester pour leurs conditions de travail à Paris. Et les policiers avaient reçu l'ordre de tirer sur les gendarmes. Ils ont tiré sur les gendarmes avec des gaz lacrymogènes, sur les pompiers, pendant que les gendarmes étaient en train de les évacuer pour qu'ils rentrent chez eux. Mmh. Donc on a eu des situations assez surréalistes. Après, la deuxième chose, on a montré que les gens n'agissent que sur ordre. On a eu 2 cas. Par exemple, juste après, en décembre 2020, on a eu ce policier dans une unité constituée en manifestation à Paris qui a été pris à partie, qui a failli se faire lyncher, qui s'est fait défoncer la mâchoire par des délinquants qui étaient venus dans la manifestation. Si ce policier s'est retrouvé dans cette situation, dans une unité constituée, c'est que les gens dans la salle de commandement ont donné l'ordre qu'il soit dans cette situation. C'est-à-dire que là, ils avaient besoin d'images de policiers en difficulté. Mmh. La salle de commandement parisienne n'a pas hésité à en sacrifier un. Parce que jamais, si on est bien dirigé, c'est impossible que cela arrive. C'est-à-dire que les unités constituées s'épaulent, se viennent en renfort et on ne peut pas être débordé normalement. Ou alors, nous sommes dirigés par des incompétents. Moi, je pense qu'on est dirigé par des incompétents qui ont en plus voulu faire des images pour montrer les pauvres policiers qui sont attaqués. Donc, c'est très dangereux d'être dirigé par ces gens-là. Même les policiers en sont victimes. Ensuite, pour revenir sur la BAC. la BAC, il y a deux choses. Dans les manifestations, elles n'ont pas leur place parce qu'elles ne sont pas formées à ça. Même les collègues CRS ou les gendarmes mobiles disent on n'en veut pas. C'est très contre-productif. Et pour avoir discuté avec des collègues de la BAC qui étaient dans des manifestations, des fois ils nous disent on tire dans tous les sens parce qu'on a peur, on panique, on n'est pas formé à ça. Et la peur nous fait faire n'importe quoi. Après, la deuxième chose également, c'est que les unités de la BAC agissent d'initiative. Initiative, donc elles peuvent faire ce qu'elles veulent, comme elles veulent, et après elles devront justifier leurs actes. Donc le problème, c'est après, il faut lui trouver un recrutement peut-être plus serré. Ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, c'est que plus personne ne veut aller en BAC tellement les difficultés derrière et les expositions des fonctionnaires. C'est qu'en général, les gens vont en BAC, ils passent les habilitations BAC en cours d'année. C'est-à-dire qu'avant, bah, les gens, il y avait un vivier. La qualité des gens qui vont à la BAC, ou en tout cas de leur formation, a baissé parce que plus personne ne veut y aller. C'est trop compliqué. Ils sont trop souvent mis en cause pour tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi parce qu'en général, c'est pas quand il y a des réelles bavures, là, ils sont couverts, curieusement. C'est assez amusant. Donc, ça aussi engendre un climat délétère. Et ce qui pose réellement problème dans la police nationale, c'est que si les BAC est utilisé à la bonne escient. Donc, je rappelle que le bon escient d'une BAC, c'est de faire du flagrant délit. C'est-à-dire que normalement, il devrait être sur des départements qu'on ne devrait pas les reconnaître. Et qui devrait faire des interpellations sur des crimes ou des délits qu'il voit se produire. Donc, il ne devrait pas intervenir très souvent, mais il devrait intervenir sur des choses qu'il voit qui sont graves. Et aujourd'hui, la politique du chiffre fait que les BAC doivent faire du chiffre également. Donc, bah, ils font de la boulette de chiffre, tout le monde sait qui c'est. Donc, l'unité de la BAC n'a plus aucun intérêt d'utiliser de cette façon-là. Et enfin, le vrai problème de la police nationale, ce n'est pas la BAC, c'est nos politiques. Parce que si un policier qui commet une exaction, commet un délit, commet un crime, est sanctionné, envoyé au tribunal et révoqué de la police nationale ou, en tous les cas, une sanction administrative en corrélation avec ce qu'il a fait. Il n'y aurait pas de problème, en fait. Parce que, un, bah, il y aurait un sentiment de confiance avec la population parce que les gens qui font n'importe quoi sont sanctionnés et puis les autres n'auraient pas envie de faire n'importe quoi, du coup. Et aujourd'hui, c'est le laisser-faire politique qui nuit à l'image de la police nationale, permet de soutenir des gens qui commettent n'importe quoi. Et je vais donner, c'est vraiment une philosophie d'État, parce que Gérald Darmanin, au mois de mars 2021, alors qu'il était en visite à la police scientifique de Lyon, devant un parterre de personnel de la police scientifique et de personnel de la police plus généralement, de syndicalistes et de journalistes, a déclaré qu'il faisait le ménage dans la police nationale des policiers qui n'étaient pas dignes de porter l'uniforme. Il a donné un exemple, comme Langlois. Et il a bien précisé que la police nationale n'était pas au service du peuple, mais de l'État. Donc voilà, et même les journalistes présents, pour en avoir eu en tous les cas un le retour, il n'a pas osé publier ça pour pas avoir de retour de flamme du ministère de l'Intérieur. Voilà où on en est au niveau de la liberté de la presse, ouais. Mais voilà comment c'est assumé par nos politiques aujourd'hui. Donc moi, c'est ces gens-là qui posent réellement problème dans la police et qui serait temps que qu'ils passent devant peut-être un tribunal ou en tous les cas qu'ils soient démis de leur fonction. Parce que je rappelle quand même que les motifs pour lesquels j'ai été sanctionné, c'est d'avoir porté atteinte à l'image de la police nationale. Je rappelle, donc on parle de l'image, hein, pas le fait qu'il soit coupable ou pas. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui, quand même, nuit gravement à l'image de la police nationale, car il est accusé de viol, oui. Quand même. Et que sur les journaux internationaux, des journaux qui sont pourtant, on va dire, mainstream, comme The Guardian, en Angleterre, New York Times aussi, je crois, ou le Washington Post, et ont titré le ministre de l'Intérieur, Macron protège son ministre de l'Intérieur accusé de viol. Donc je veux dire, même à l'international, l'image de la police nationale est dégradée juste par la nomination de Darmanin. Moi, j'ai eu la chance, ou aucun délégué de vigie d'ailleurs, ni M. Ben Mohamed, ou tous les lanceurs d'alerte de la police, n'ont jamais fait la une des journaux anglophones, par exemple.
Mmh. Oui, enfin, c'est assez terrible comme constat. Il y a un problème que je voulais qu'on évoque aussi, puisque le temps passe, c'est celui des suicides. Puisqu'on parle souvent des agriculteurs, mais apparemment, tu l'expliques dans ton livre, que malheureusement, la police nationale a le taux de suicide le plus important. Quasiment un policier qui suicide tous les jours.
Toutes les semaines.
Toutes les semaines.
Les agriculteurs, c'est un jour sur deux, et nous, c'est toutes les semaines. En pourcentage, on a le plus gros, par rapport au nombre d'effectifs, on a le plus gros pourcentage de suicides, et les agriculteurs ont le plus grand nombre.
D'accord. Tu peux revenir un petit peu sur la problématique, puisque apparemment c'est...
Avec plaisir. La problématique, enfin avec plaisir, c'est malheureux qu'on en parle toujours au bout de quasiment 40 ans, puisque rien n'a été fait. Donc les policiers suicident en moyenne une fois par semaine. Les pics de suicide ont en plus explosé sous Castaner, avec des ordres complètement contradictoires, des heures supplémentaires accumulées. Donc, quelle est la méthode? Déjà, l'administration a reconnu que c'était un problème structurel. Donc déjà, c'est de la faute de l'administration et c'est un problème de management. On a mis des sparadraps sur une jambe de bois. On nous a dit, vous allez faire des barbecues conviviaux. Oui. Pas terrible. Surtout sur notre temps personnel.
Sur votre temps perso, oui.
Donc ça veut dire qu'en fait, les policiers, ils ont dit, nous, on préférait à la limite payer nos saucisses merguez, et ben, par contre, ce soit sur le temps de service. Et à la limite, même, on ne demande rien, on s'en occupe nous-mêmes. Je veux dire, c'était le cas avant, il y avait des repas de brigade, les gens amenaient chacun à manger, on se faisait un truc sympa, et c'était convivial. Donc là, ils ont dit, on va vous payer le truc, mais par contre, ce sera sur votre temps personnel. Donc là, ils ont dit, vous n'avez rien compris. Après, on a eu M. Castaner, qui a mis en place un numéro vert, pour appel SOS suicide. Il a tellement pas mis d'argent sur la table que l'appel d'offres n'a pas trouvé preneur pendant 3 mois. Ils ont dû renouveler l'appel d'offres pour enfin que le numéro vert soit mis en place. Inefficace. Le taux de suicide n'a pas bougé. Alors Gérald Darmanin, quand il est venu de ministre, il dit, il y a un vrai problème, je vais faire quelque chose, je vais faire 2 fois mieux que Christophe Castaner. Et donc il a mis un deuxième numéro vert en place. qui est tout aussi inefficace que le premier. Donc voilà, donc on en est là, des gens qui se moquent de nous. Mettons le vrai problème de fond. Les policiers sont dans la société française. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première cause de mort violente en France, c'est le suicide quand même. Il y a quasiment un suicide toutes les heures en France. Voilà, et on est le seul pays européen à avoir ça. Donc il y a un profond malaise de la société française, et c'est pas pour rien qu'on est le premier pays consommateur d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. C'est-à-dire que pour tenir dans un contexte pathogène, on nous fait tenir, plutôt que de changer les choses pour améliorer le cadre de vie, on nous met sous médoc. Ce qui est quand même dramatique comme philosophie. Et donc dans la police, on n'y échappe pas. Sauf que dans la police, en plus, on a un management délétère. Je vais prendre un exemple marquant, parce que c'est ce que je relate dans le livre, mais c'est un collègue qui était tombé dans l'alcoolisme. Il n'était pas suicidé, mais certains, malheureusement, arrivent à l'acte dramatique. Lui, sa priorité dans sa vie, c'était son travail. À cause des heures de travail qu'il faisait, des heures supplémentaires accumulées, eh ben, sa vie de famille en a subi les conséquences. Donc, il a dû divorcer. Donc, quand l'administration dit, il avait des problèmes dans sa vie, il a divorcé, elle ne pose jamais la question, mais pourquoi il a divorcé? Parce que les conditions de travail faisaient qu'il ne voyait plus sa famille. Deuxième chose, après, il a dit, maintenant, ma priorité, c'est de voir mon fils. Le jugement du tribunal lui avait dit, un mercredi, un week-end sur 2. Ça tombe bien, c'était son cycle de travail. Il avait la chance d'avoir celui-là. Pour évoluer professionnellement, il voit un autre poste qui l'intéresse plus. Et par contre, il n'est pas sûr d'avoir les jours de garde pour ses enfants. Donc il va voir pour postuler, son profil intéresse le service demandeur, et dit, par contre, moi, ma priorité, c'est mon enfant. Donc est-ce que vous pouvez me garantir que j'ai un mercredi sur 2 et un week-end sur 2? Il dit, écoute, au début, tu pourras pas, mais au bout de 3-4 mois, une fois que tu as fait à manger ton pain noir, pas de problème. Bon, il dit, 3-4 mois dans ma vie, qu'est-ce que c'est? C'est pas grave, je signe. Et au bout de 4 mois, il revient. Il dit, alors comment ça se passe pour que je repasse dans mon autre cycle de travail? Ça, j'ai fait comme vous avez dit. Et réaction de sa hiérarchie, il dit, t'as un papier écrit? Non, j'ai votre parole, on est entre policiers, donc la parole suffit. Elle dit, non. Il dit, dans ce cas-là, je vais retourner dans mon ancien service. Il dit, c'est trop tard, tu ne peux pas. Donc en fait, son enfant, il ne va pas le voir quasiment pendant un an. Finalement, il arrive à avoir les vacances de Noël pour passer ses vacances avec son fils. Son fils l'appelle un mois avant en disant, papa, écoute, je t'ai pas vu pendant un an, je veux plus te voir, à Noël, je serai pas avec toi. Et ce collègue est tombé dans l'alcoolisme à cause de ça. L'administration l'a sanctionné pour alcoolisme, mauvais élément. Et quand on démonte les choses, en fait, pourquoi il est tombé dans l'alcoolisme? Finalement, il a fait la démarche de s'en sortir. Donc, normalement, un employeur responsable l'aurait demandé de se soigner plutôt que de le sanctionner. Donc, lui, il a fait la démarche de se soigner et il s'en est sorti. Mais l'administration n'a fait qu'une chose, c'est de l'enfoncer, pour éviter de remettre en cause ces graves préjudices. La deuxième chose également, pour les collègues qui vont jusqu'au bout de leur acte, qui sont complètement désespérés, c'est qu'ils ont tout donné pour la police. Quand ils voient que la police les trahit, en dénaturant leur mission, en cassant tout ce qui leur restait, forcément, là, il y a un grand désespoir, ils se retrouvent tout seuls. Tout seuls, ils se suicident. On nous dit que c'est à cause de l'arme de service. Non. Il y a 55% de nos collègues qui se suicident avec une arme. Les autres, ils trouvent d'autres moyens divers et variés. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les statistiques officielles, même sur ça, le ministère de l'Intérieur arrive à falsifier les chiffres. Un policier, c'est quelqu'un qui travaille pour la police nationale, à notre sens. Et donc, en fait, les personnels techniques, administratifs, de la police scientifique, ne sont pas reconnus dans les chiffres. D'accord. Et pourtant, ils se suicident également. Voilà, on a eu quelqu'un, par exemple, l'autre jour, quelqu'un qui était au niveau des transmissions. Nous avons un bâtiment que l'administration loue à prix d'or pour les ressources humaines. Elle est sortie d'une réunion syndicale, puisqu'en plus elle est des syndicalistes, elle a sauté du 7e étage. Donc, je veux dire, il y a vraiment un désespoir profond dans la police pour en arriver là. L'autre chose également, c'est qu'on vit en vase clos. C'est qu'à force d'avoir des heures supplémentaires, pas les mêmes jours de repos, mais on ne peut que travailler en vase clos avec nos collègues de travail. C'est pour ça que des fois aussi, on se dit, je vois des mauvais comportements, des choses qui sont contre ma conscience, mais si je me fâche avec les 10 personnes avec lesquelles je travaille, j'aurais vraiment plus rien. Sauf qu'au bout d'un moment, pour certains, ça devient insupportable. Ils commettent l'acte irréparable. Donc, il y a toutes ces choses à prendre en compte. Et aussi, très intéressant au niveau des statistiques, parce que le ministère de l'Intérieur, à défaut de pouvoir protéger la vie des gens, ils font des belles statistiques, c'est qu'on constate au niveau national en France, les gens qui se suicident le plus, c'est ceux qui ont moins de 25 ans ou ceux qui ont plus de 65 ans. Dans la police nationale, la grande majorité des suicides, c'est autour de entre 30 et 40 ans. 30 et 40 ans, ça veut dire des gens qui sont vraiment posés dans la vie, qui commencent à avoir une expérience, qui peuvent encore se projeter pour aller de l'avant, qui ont une vie familiale à peu près stabilisée, et c'est à ce moment-là que les gens se suicident. Généralement, les policiers se suicident, ils ont souvent des enfants. Donc voilà, donc le désespoir est tel que la police nationale arrive à pousser au suicide les gens qui, en France, ne se suicident pas. Et pourtant, notre pays, comme on l'a démontré, est malade. Et résultat des courses, on a déposé une plainte sur le modèle de Orange France Télécom avec le syndicat Vigie en septembre 2019. La plainte est toujours en cours d'instruction. Nous n'avons pas de nouvelles. Donc c'est assez dramatique malgré que tout le monde ait reconnu qu'il y avait un problème de fond. Donc aujourd'hui, on compte les morts. Les policiers rentrent dans la police, savent qu'ils peuvent mourir en intervenant sur un braquage, en intervenant sur une action terroriste, en faisant un contrôle routier, parce que malheureusement, il y a aussi des chauffards. Aujourd'hui, un policier a quand même 10 fois plus de chances de mourir en se suicidant qu'en intervention. Et ça ne choque personne. Ou alors, il y a juste des discours complaisants et de rhétorique de nos ministres depuis 40 ans. Et on sait que, on prend l'exemple, ce n'est pas une obligation et ce n'est pas une fatalité, nos collègues québécois avaient la même difficulté dans les années 80.
Oui, tu en parles dans ton livre. Hein.
Voilà, ils ont mis en place des mesures très concrètes. Un suivi psychologique obligatoire. Déjà, ça permet de souffler, ça permet de détecter les gens qui ne se sentent pas forcément vulnérables, mais qui sont en réalité. D'autres qui sont déjà vulnérables et qui permettent de souffler, qui permettent aussi de retirer certaines personnes de certains services un petit peu trop intenses ou des choses comme ça pour les protéger et leur éviter de commettre aussi des fraudes professionnelles. Ce n'est pas fait en France. Il y a aussi une convivialité qui a été mise en place, autre chose que des barbecues conviviaux sur le personnel. Donc tout ça a joué. Et du coup, ils ont réussi à faire baisser leur taux de suicide de 80%. Et chez nous, on compte les morts. Donc voilà, il y a des choses qui marchent. La France reste toute seule dans son coin à dire « c'est pas grave, on va continuer d'user les gens ». Et il y avait une petite caricature de France Télécom à l'époque, mais qui serait toujours d'actualité. On vous demande pas de vous suicider, on vous demande de vous tuer au travail. Mais je crois qu'on en est malheureusement là et que l'employeur public n'a pas changé.
Oui, alors tu pointes un problème de fond, hein, tu parles de France Télécom. Bon, l'affaire France Télécom, ça n'a pas été jugé par France Télécom. Et en l'occurrence, moi, je voulais pointer un petit peu l'IGPN, parce que tu évoques dans ton bouquin le Code européen d'éthique de la police, qui a été adopté par les ministres du Conseil de l'Europe, qui prévoit un contrôle externe de la police. Et justement, l'IGPN, ça n'est pas du tout un contrôle externe. Donc, est-ce qu'un des problèmes majeurs, c'est justement, ça n'est pas l'IGPN ?
Ça, ce serait le premier domino à faire tomber qui permettrait de régler les autres problèmes majeurs. Pourquoi ? Déjà, première chose, il y aurait, comme le dit le Code d'éthique de l'Europe que la France a signé en 2001, de la police, eh bien, même si les policiers qui sont en charge d'enquêter sur la police faisaient leur travail de façon consciencieuse, il y aurait toujours une suspicion. Et une suspicion n'est pas tolérable en démocratie. Donc déjà, pour un lien de confiance entre la police et la population, il faut que ce soit un organisme externe. Nous sommes le seul pays d'Europe à ne pas avoir un contrôle externe. Donc il faut le savoir, hein. Voilà, la France essaie de se défendre en disant « Ah ben si, le défenseur des droits, à moitié le défenseur des droits, il n'y aura que des élus, c'est pas un contrôle externe. Oui. » La deuxième chose également, c'est que en plus de ce lien de confiance entre la police et la population, les policiers qui constatent des manquements, des dysfonctionnements, voire des crimes ou des délits au sein de la police. Aujourd'hui, l'IGPN est le bras armé de la police nationale pour les faire taire, avec des sanctions disciplinaires, des cabales qui sont montées, des fausses procédures. Enfin, je veux dire, on est sur quelque chose de n'importe quoi. Et bien, Dumas, c'est un organisme externe. Et bien, du coup, on va peut-être mettre les bonnes sanctions aux bonnes personnes. C'est-à-dire que ce ne soit pas le lanceur d'alerte qui soit sanctionné, mais ce soit la personne qui a commis les crimes ou les délits. Voilà, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, la peur de la police nationale, c'était la discussion que j'avais pu avoir par mail avec l'ancien directeur général de la police nationale, quand on avait dénoncé le syndicat Vigie, ce qui lui posait problème, c'est que c'est nous qui avions porté atteinte à l'image de la police nationale parce que nous avons dénoncé les méfaits internes. Et quand on lui avait répondu, ben oui, mais enfin, si jamais vous les avez sanctionnés en interne, on n'a rien eu à dénoncer, il a dit, ben oui, mais si vous l'aviez, la poussière était sous le tapis, vous l'avez enlevé. Donc voilà, donc un contrôle externe permet de limite d'enlever ça, et en tous les cas, comme ça, les citoyens peuvent savoir ce qui se passe, et on peut avancer sur une police plus propre. Troisième chose, ça évite les conflits d'intérêts au sein de la police. Parce que, par exemple, nous avons l'ancienne directrice de l'IGPN, Madame Monégé, qui a dû enquêter sur une affaire de vente de fichiers de renseignement à un service étranger, à savoir le service de renseignement marocain, sur l'aéroport d'Orly. Donc là, on parle de compromission avec un État étranger. L'enquête a été bâclée à tel point que le juge d'instruction en charge du dossier a dit « Non mais moi, en fait, je ne peux pas travailler avec les conclusions que m'a envoyé l'IGPN. » Et pour cause, qui était le directeur de la police aux frontières d'Orly au moment des faits ? le mari de Madame Monéger. Donc évidemment, l'enquête a été très orientée sur on va pas trop remonter dans la hiérarchie, je vais quand même pas embêter mon mari sur des actes de compromission.
Ça évoque aussi, ça fait penser plus à l'affaire Ramasushi où l'enquêtrice de l'IGPN, c'était la compagne de Ramasushi.
Enfin, voilà, c'est la compagne. C'est sur ça, c'est des conflits effectivement sur la même chose où et on voit pas de problème. Mmh. Ah bon, on voit pas de problème. Bah si, on voit quand même un sérieux problème. Déjà de base, ça pose un problème que la police enquête sur elle-même, mais en plus quand il y a des liens familiaux, ça pose problème. Donc ça, voilà, ça pose quand même de sérieuses questions. Et enfin le dernier point, là parce que j'avais discuté avec des collègues anglais, ils nous ont dit en fait après il y a un retour d'expérience, c'est que la police nationale est un service public devant assurer la sûreté des gens. J'insiste sur le terme sûreté parce que ça c'est le terme constitutionnel qui est dans la Déclaration des droits de l'homme, et la sûreté, c'est protéger les personnes et les biens d'actes malveillants et de gens qui veulent nuire. Parce que la sécurité, c'est protéger des accidents, plus. Donc c'est bien aussi, mais c'est pas le cœur du métier. Et du coup, y a un retour sur expérience. Ils nous ont dit, par exemple, qu'on a eu des émeutes dans les banlieues en 2012 en Angleterre. On a fait des choses dans l'urgence. Alors, on a fait des choses qui n'étaient pas bien faites, d'autres qui étaient bien faites. Donc on a eu un retour d'expérience. On a dit, ça, on a fait, faut pas le refaire, parce qu'il y a eu des conséquences dramatiques. Ça, c'était pas mal, on va le garder. Et puis, il y a des choses, on savait pas quoi faire. Et justement, prenons le temps d'y réfléchir dans un contexte apaisé. Donc, ce qui permet à chaque fois d'améliorer, à savoir les conditions d'opération des personnels de la police, mais aussi la protection de la police, de la population et le service rendu, un service rendu cohérent avec une démocratie. En France, ça se passe pas du tout de cette façon-là. Vu que l'IGPN a aussi un rôle d'audit, les commissaires changent de service au fur et à mesure dans leur carrière. On voit la directrice de l'IGPN doit son poste au directeur général de la police nationale. Donc à chaque fois, on est dans des bons et loyaux services.
On renvoie l'ascenseur.
Tu dis que tout va bien quand tu es à l'IGPN dans mon service, puis quand moi j'y serai, quand tu seras dans un autre poste, je dirai que tout va bien. Mmh. Et effectivement, à chaque fois, tout va bien. Il n'y a pas de problème en France. Et le pire, c'est un copain commissaire qui me l'avait fait remarquer. Les notes de service dans la police nationale qui sont faites par les directeurs et les hauts responsables de la police sont toujours à la fin, la dernière petite phrase, c'est marqué « Veuillez me faire remonter tout dysfonctionnement dans l'application de la présente instruction. » Alors il m'a dit, je te le traduis en français normal, ça veut dire, soit vous l'appliquez et j'en entends pas parler et c'est bien fait, soit vous n'arrivez pas à l'appliquer et c'est vous qui êtes nul et qui ne savez pas l'appliquer, donc il y aura des conséquences pour votre carrière. Ce qui fait qu'aucun directeur n'a de retour négatif sur ses instructions et les ordres qu'il donne. Et qui peut mentir très sciemment à la presse en disant, moi, j'ai donné les instructions qui vont dans le bon sens, je n'ai pas de retour, donc c'est que tout va bien. Les homologues, nos homologues anglais ou allemands, enfin dans d'autres pays européens, eux, en fait, ils vérifient en fait ce qui se passe. Et quand ils donnent un ordre, ils vérifient sur le terrain qu'ils sont bien appliqués, que c'est cohérent et si ça va. Chez nous, non. On est juste sur des gens qui ont des courtisans en dessous d'eux, qui ne diront rien parce qu'ils attendent de prendre la place. Et puis, ils vont flatter à chaque fois la personne au-dessus, qui vont lui dire, non, c'est génial ce que vous avez fait, même si c'est inapplicable, même si ça ne sert à rien. Je reprends par exemple, on a eu c'est une directive là de Madame Schiappa qui m'avait marqué, le harcèlement de rue. Elle nous avait pondu une jolie loi pour lutter contre le harcèlement de rue. Maintenant, elle veut faire les quartiers anti-relou. Bon, en fait, c'est inapplicable en fait. Et c'est un petit peu de dire de faire des lois. Il y a déjà des lois qui existent pour ça, donc il n'y a pas besoin d'en refaire. Et la deuxième chose, en fait, les gens se tiennent bien quand il y a une patrouille de police. Hein, je veux dire, à titre de comparaison, on grille rarement un feu rouge quand il y a une patrouille de police à son pied, quoi. Donc c'est exactement la même chose. Donc on nous demande de faire des choses qui vont faire de la bureaucratie, qui vont demander des statistiques, qui vont faire de la plaisir au gouvernement pour sa communication. Mais au final, c'est du travail en plus et ça empêche justement le travail essentiel.
Oui. Écoute, on arrive un peu au bout de l'heure qui nous est impartie. Alors je voulais qu'on revienne un peu sur l'IGPN, mais bon, je renvoie les auditeurs à ton livre ton entrevue avec l'IGPN est abondamment relatée et on se dit heureusement qu'il connaît un peu la loi parce qu'en face de lui, il a quand même, je parlais de méthode stalinienne, mais c'est vraiment ça. Juste pour finir concrètement, comment est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que la cagnotte que tu avais mis sur le pot commun est toujours valable ou pas?
Alors là, j'ai surtout les pots communs, tout ça, ils veulent plus de cagnotte, donc j'ai fait un pot de départ de la police nationale, donc qui est toujours d'actualité sur le pot commun pour le coup, il n'a pas été fermé, donc ça peut toujours aider à développer des choses, et après aider, c'est surtout de faire toujours relayer, partager l'information, parce que ce qu'on constate, c'est il y a un malaise en France parce que les gens ne savent pas.
Ben oui.
Voilà, les gens n'ont pas conscience de tous les éléments, et on reste clivé sur des débats pour ou contre, plutôt que comment. Ouais. C'est pour ou contre la police. Plutôt que quelle police on veut. Il y a eu, par exemple, récemment, sur un autre sujet, la tribune des généraux. Alors, c'était soit des putschistes, soit vive l'armée. Mmh. Et en fait, la vraie question, c'est Ils ont posé des questions très concrètes dans leur tribune, plutôt de dire pour ou contre l'armée, ou est-ce que c'est des putschistes ou pas, répondant aux questions. Mmh. Donc en fait, à chaque fois, on hystérise le débat, donc c'est d'amener du calme, d'avoir de la réflexion et d'aller de l'avant. Et après, il y a quelque chose, comme j'ai vu qu'en fait, il y a eu un changement de cap avec ce gouvernement, on ne peut plus, les corps intermédiaires n'ont plus de pouvoir aujourd'hui, à moins le pouvoir d'être des courtisans. Et du coup, je travaille sur un projet politique qu'on devrait, on espère voir pouvoir lancer pour début juin pour le 2022. Donc ça, ceux qui seront intéressés, c'est de se lancer dedans. Et après, c'est tout simplement de façon plus générale, là, il y a aussi les départementales et les régionales, bah, c'est de participer à toutes les listes citoyennes. Parce qu'il y a des listes citoyennes partout en France qui essayent de se monter, qui cherchent des candidats, parce que c'est pas facile, donc c'est de s'investir de cette façon-là. C'est d'aller voter, parce qu'en France, on a un sérieux problème avec notre classe politique actuelle. Mais une dictature, il suffit d'un dictateur. Une oligarchie, comme à l'heure actuelle, il suffit d'un club de personnes qui pressurisent tous les autres. La démocratie, ça demande l'investissement de tout le monde, à chacun à son niveau. Mais si on a une carte d'électeur, c'est juste d'aller voter. Et même si rien ne nous va, soit on crée quelque chose qui peut nous convenir, soit on va voter blanc. Sinon, ils vont bourrer les urnes à notre place, si notre signature n'est pas posée sur le registre. Donc il y a toutes ces petites choses-là. Donc le moyen de lutter, c'est un moyen collectif, bah, c'est de se réinvestir dans la cité, de se réinvestir dans la politique pour faire changer les choses, chacun avec le temps qu'il a, avec le niveau qu'il a, avec les envies qu'il a, parce que je sais bien que c'est difficile que de réfléchir à l'avenir du pays ou à l'avenir politique et des institutions quand on a du mal à remplir le frigo jusqu'à la fin du mois, mais il faut se donner ça pour essayer de voir des jours meilleurs arriver. Donc voilà, là c'est un engagement de chacun en fonction de ce qu'il peut faire, et je crois que l'engagement sera politique, et à n'importe quel niveau on va pouvoir le faire, mais qu'on mette dehors tous ces gens, parce que comme disait Einstein, c'est pas avec les gens qu'on crée les problèmes qu'on va pouvoir les résoudre.
Eh bien, qu'on compte sur nous pour relayer le message, et puis eh bien, écoute, merci encore d'avoir répondu à l'invitation, et puis peut-être à une prochaine fois.
Ben, merci beaucoup, merci. Et merci de ta patience, parce que ça, effectivement, quand c'est pas calé dans un agenda, je mets beaucoup de temps, mais une fois que ça a été fait, tu vois, on a pu le faire en à peine une semaine.
Ouais, c'est mon côté pitbull, ça. Merci Alexandre, à très bientôt.
Au revoir. À bientôt, au revoir.
Eh bien voilà, j'espère que cette petite heure passée en compagnie d'Alexandre Langlois vous aura donné envie de ne rien lâcher, si tant est que vous ayez eu cette envie. Un bel exemple en tout cas qui démontre, si besoin était, que le manichéisme n'est pas de ce monde et que diviser pour mieux régner reste une des armes principales de ces fous qui nous gouvernent. Et si vous n'étiez pas totalement convaincu, je vous recommande chaudement la lecture du livre d'Alexandre. Vous verrez que la réalité est encore bien pire. C'est un certain Krishnamurti, je crois, qui disait que ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société malade. Donc, n'ayez crainte, vous allez très bien.